invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. À partir du verset 10, nous lirons ensemble les versets 10. 10 à 14. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Vous avez enfin eu la possibilité de manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Je ne veux pas dire que vous aviez cessé de vous soucier de moi, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter de ce que j'ai. Et Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai assez à manger ou que j'ai faim, que j'ai trop ou que je n'ai pas assez. Je peux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Cependant, j'avais bien fait de prendre part à mes difficultés. Et frères et sœurs, peu importe ce qui nous attend cette année, j'espère que c'est votre prière et qu'à travers sa parole, aujourd'hui, Dieu puisse nous parler. Et que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans la disette, eh bien, que nous puissions quand même garder ce cœur joyeux, ce cœur content. Content parce que nous savons que, d'abord, Dieu est là pour pourvoir à tous nos besoins. C'est une promesse qu'il a faite, qu'on a un Sauveur qui est vivant, un Sauveur qui veille sur ses enfants. Et comme Paul, que nous puissions dire au bout de la ligne, je peux faire face à toutes mes situations grâce au Christ qui me fortifie. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, Seigneur, dans ta grâce, tu nous as laissé une parole, Seigneur, par un de tes serviteurs, l'apôtre Paul, Seigneur, qui, lui, vivait des difficultés, était dans un état de détresse terrible, il attendait une condamnation, un jugement sur lui, et pourtant, Seigneur, il avait saisi, Seigneur, l'essentiel, qu'il n'était pas seul, que tu étais avec lui, et Seigneur, qu'il pouvait compter sur toi, qu'il dépendait de lui. Mais surtout, Seigneur, ce contentement qui habitait son cœur, Seigneur, et qui lui permettait de pouvoir encourager les uns et les autres. Seigneur, fais de nous en 2015 des encourageurs. Fais de nous, Seigneur, en 2015, Seigneur, des enfants qui pourront, Seigneur, s'appuyer sur toi et dire comme l'apôtre Paul, Seigneur, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Que Christ vit, règne et manifeste sa gloire à travers chacun de nous. Et c'est au bon nom de Jésus que je te le demande. En nous guidant, Seigneur, dans cette parole, Seigneur, ce matin, dans le texte de Philippiens. Amen. Amen. Un pilote d'avion survolait les montagnes du Tennessee lorsqu'il montra un petit lac à son copilote. « Tu vois ce petit lac là-bas? » Et lui dit-il, « Quand j'étais enfant, je me retrouvais souvent assis sur le lac, dans une barque en train de pêcher. Chaque fois que je voyais un avion qui survolait le ciel au-dessus de moi, eh bien, je fixais les yeux sur cet avion en pensant que je me trouvais à l'intérieur de cet appareil en train de voler. Maintenant que je pilote cet avion, je regarde vers ce lac et j'aimerais me trouver dans cette chaloupe en train de pêcher. Pour un grand nombre de personnes, frères et sœurs, le contentement peut se résumer à quelque chose qui demeure insaisissable. La satisfaction de l'être humain, la satisfaction du cœur, la satisfaction de l'âme, pour la grande majorité des gens qui vivent dans ce monde, c'est quelque chose de pratiquement insaisissable. Nous adoptons un style de vie en pensant que cela nous rendra heureux, et nous découvrons qu'il n'en est rien, que nous étions mieux avant. Je ne l'avais pas prévu ce matin, mais je vais vous donner une petite illustration. C'est la semaine passée, je regardais à la télévision, on montrait les gens qui se faisaient refaire les oreilles, le nez, en fait, vous savez quoi. Et il y avait un jeune homme là, qui avait 20 ans. Et qui en était rendu à d'avoir dépensé 100 000 euros pour se faire refaire le visage pour ressembler à Justin Bieber. Et la dernière opération consistait à lui couper ça ici, à lui enlever une partie du cuir chevelu pour rabaisser, je ne sais pas trop comment on devait faire, mais il est allé voir deux chirurgiens sérieux, et les deux chirurgiens ont dit, écoute, tu vas risquer ta vie si on doit faire cette opération-là. Donc, ce n'était pas une question d'argent, mais on peut pas subir cette opération-là parce qu'il y a des veines qui passent là, et il y a des nerfs qui passent là, et on n'est pas certain de pouvoir bien tout regrouper ensemble, quoi. Et bien, ce jeune homme, il a quitté, il était déçu, il était frustré qu'on lui ait refusé cette opération parce qu'il voulait ressembler de plus en plus à Justin Bieber, et pour lui, c'était quelque chose qui lui manquait, ça. Et pourtant, ce garçon-là, quand on le regardait, écoutez, je ne sais pas combien d'opérations, je pense qu'il était rendu à une trentaine d'opérations, mais ce garçon-là, quand je le regardais, mais il était laid, quoi, il était laid. Il était complètement défiguré, quoi. Et je pense que ses parents, s'ils regardaient une photo de cet enfant-là à 16 ans et par rapport à 20 ans, ils devaient se dire, on ne le reconnaît pas, quoi. En fait, lui, il se trouvait beau, il trouvait qu'il ressemblait de plus en plus à Justin Bieber. Mais il n'y avait plus de traits, il n'y avait plus rien, tellement qu'on avait travaillé son visage, ses yeux, ses oreilles, son front, son menton, son nez, sa bouche, ses lèvres. Frères et sœurs, on vit dans un monde qui n'est pas bien dans sa peau. On vit dans un monde qui n'a pas ce contentement que nous recevons parce que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est comme ces deux larmes qui se rencontrent un jour le long de la rivière de la vie, et la première larme demande à la deuxième, « D'où viens-tu? » « Oh, dit la deuxième larme, je suis la larme d'une jeune fille qui a aimé un homme qui l'a quitté. Et toi? » dit la deuxième larme à la première, « D'où viens-tu? » « Je suis la larme qui a rencontré cet homme qui t'a quitté et qui l'a épousé. » Le manque de contentement qui caractérise notre monde occidental se voit de différentes manières. D'abord, on le voit dans le taux d'endettement élevé des consommateurs des gens. L'apôtre Paul nous dit que la seule dette que nous devons avoir, c'est l'amour. Mais les gens dans ce monde sont surendettés. Surendettés, pourquoi? Parce qu'ils ne se contentent pas de vivre selon leurs moyens. Ils n'ont pas ce contentement que seul on peut recevoir de Jésus-Christ. Et les gens s'endettent en espérant que ça va changer, améliorer leur train de vie. Et quand il arrive la fin du mois, eh bien, ils paniquent. Ils paniquent parce qu'on sait qu'à la fin du mois, les factures rentrent aussi. Et les versements doivent se faire. Et les gens sont étouffés, les gens sont étranglés. Et les agences de publicité essaient de nous convaincre que nous ne pouvons pas être heureux à moins d'acheter leurs produits. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Vous avez adopté une marque de savon, et bien tôt ou tard, on va vous sortir la même marque améliorée. Vous souvenez de la fameuse annonce, hein? Celle-ci lave plus blanc que blanc. J'aime pas Coluche, mais je dois dire que cette publicité-là, elle avait très, très bien fait, hein? Ouais. Ah, ils disaient avant, ça lavait blanc. Maintenant, ça lave maintenant plus blanc que blanc. Expliquez-moi ce que c'est que plus blanc que blanc, quoi. Et on est là pour créer en nous un besoin. Et nous tombons souvent dans le piège pour découvrir finalement que nous possédons une chose de plus que nous n'avons pas besoin. Combien de gens? Regardez, hier, je regardais, c'était impossible d'aller dans les gros. Je ne sais pas si vous êtes allé au Carrefour Herstal, hein? C'était aberrant, quoi. Les gens prenaient les vêtements, ça lançait les vêtements. Moi, je m'accrochais les pieds dans les souliers. Mais on a répandu, quoi. Les gens sont rentrés là, ils ont vu, ils ont désiré, là, ils ont créé des besoins, quoi. Pourquoi? Parce que c'était les soldes. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait des soldes? Pas juste pour vous faire épargner de l'argent, mais pour créer des besoins, pour vous permettre de continuer à vivre un petit bout de temps en pensant que vous avez amélioré votre vie en achetant des choses que vous n'aviez sûrement pas besoin. Mais on crée des besoins. Deuxièmement, le manque de contentement qui caractérise notre monde occidental se voit également dans notre haut taux de mobilité. Les gens demeurent rarement plus de 5 ans à la même adresse. Ils sont toujours en mouvement, cherchant de meilleures maisons, un meilleur travail, un meilleur endroit pour vivre, pour élever une famille ou pour vivre une retraite paisiblement. Bon, je ne dis pas que certains des déplacements ne sont pas nécessaires parce que les gens recherchent un emploi plus décent, mais certains autres sont attisés par un mécontentement qui les ronge à l'intérieur parce qu'ils pensent qu'ils seront satisfaits lorsqu'ils trouveront la situation idéale qui leur permettra d'avoir une qualité de vie inespérée. Mes frères et sœurs, ça arrive que dans les contes de fées. Notre manque de contentement qui caractérise notre monde occidental se voit également dans notre haut taux de divorce. Les gens ne peuvent pas trouver leur bonheur avec une seule femme dans leur vie. Est-ce que vous savez qu'au Québec, après 3 ans de mariage, si vous n'avez pas trompé votre femme, on vous conseille d'aller voir un psychologue? On en est rendu là. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas contents. Il y a des pays qui parlent de faire des contrats de mariage à durée déterminé, un CDD. 10 ans, le contrat de mariage, après, on s'assoit, on négocie si on peut continuer à renouveler un autre contrat de 10 ans. Pourquoi? Parce que les gens sont incapables de se contenter de ce qu'ils ont. Notre manque de contentement se voit aussi dans la défense de nos droits, parce que nous sommes convaincus que nous sommes des victimes. Si nous pouvions juste être traités de manière équitable, nous pensons que nous serions heureux. Nous exigeons de l'État-providence toujours plus en oubliant que l'État ne nous doit rien. J'ai rien contre les grévistes, je pense que le droit de grève, c'est un droit. Mes frères et sœurs, souvent, on réclame comme des bébés gâtés, quoi. Comme des bébés gâtés. Quand je pense que mes grands-parents faisaient 80 heures de travail par semaine, quand je pense que mon père faisait 60 heures de travail par semaine, quand je pense que j'ai commencé à 40-45 heures par semaine, et aujourd'hui, on essaie de négocier moins de 35 heures par semaine. On va être payé à rien faire, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui nous satisfait, rien. On est rendu un peu comme à l'époque des Romains. Que veut le peuple? Walter, que veut le peuple? Voilà, du pain des jeux. Il y avait tout près de 190 jours fériés chez les Romains, à l'époque des Romains, pour que les gens puissent s'amuser, pour que les gens puissent avoir du plaisir, parce qu'il n'y avait rien pour les contenter. 190 jours, vous vous imaginez, sur 365 jours. À un moment donné, ça se paye, c'est quand les gens ne travaillent pas, hein? L'État s'endette et tôt ou tard, on doit rendre des comptes. Notre manque de contentement se voit aussi dans notre façon de demander toujours plus d'argent. Nous essayons de gagner encore plus d'argent afin de pouvoir nous offrir encore plus de choses pour pouvoir vivre encore de façon plus confortable. Les gens achètent des billets de loterie espérant gagner le gros lot qui leur permettra d'avoir tout ce qu'ils ont toujours désiré dans leur vie. Mais même ceux qui gagnent les gros lots ou de gros montants d'argent dans un procès ne sont pas heureux à long terme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la famille Lavigueur. Au Québec, ils ont gagné 7 millions d'argent. C'était des assistés sociaux. Ils n'avaient jamais germé rien eu, jamais de dispute avant. Ils ont acheté un billet à toute la famille ensemble. Et finalement, pendant des années, et une des filles, c'était une famille nombreuse. Hein? Quand on dit nombreuse, c'est nombreuse. Et une des filles, cette semaine-là, qui n'avait pas donné son argent pour soutenir le billet, eh bien, la famille a décidé de ne pas lui verser sa part. Ça part du gros lot. Ça a fait un scandale. Ils se sont retrouvés devant les tribunaux. Ils n'avaient jamais goûté à l'argent. Ils se sont achetés un château. Ils n'ont jamais été capables de le soutenir, ce château-là, de l'entretenir. Ils ont fait un film là-dessus, La famille Lavigueur. Finalement, le père est mort d'un cancer. La mère est morte d'une crise de cœur. Et les enfants se sont séparés, se sont plus jamais revus. Ouais. L'argent, ce n'est pas ce qui fait le bonheur. Et pourtant, c'est ce qu'on nous enseigne dans le monde. Les gens ne sont pas capables de se contenter de ce qu'ils ont. Et dans Philippiens 4, chapitre 10, les versets 10 à 13, un homme se trouve en prison à cause d'un fonctionnaire corrompu. Et il s'attend à être condamné suite aux fausses accusations qui ont été portées contre lui. Et cet homme nous révèle comment trouver le contentement et trouver le bonheur. La réponse se trouve à travers quelques mots au milieu d'une note de remerciement qu'il a laissée. Et on voit ici, il parle, il rappelle que l'église de Philippe avait envoyé un don financier en prison à l'apôtre Paul, tout en voulant les remercier. Il ne voulait pas leur donner l'impression que le Seigneur ne pourvoyait pas tous ses besoins. Et même s'il se trouve dans une situation difficile, il dit dans verset 14, une situation désespérée, une situation de détresse, il ne veut pas que ses donateurs pensent qu'ils n'étaient pas satisfaits avant qu'ils reçoivent leur don. Il veut plutôt qu'ils sachent qu'il a apprécié grandement leur générosité qu'ils ont manifestée à son égard. Il va combiner donc ses remerciements avec ce précieux enseignement sur le secret du contentement. Et frères et sœurs, je pense que c'est un enseignement qu'on a besoin, nous, en tant que chrétiens. Combien le manque de contentement, parce qu'on s'est accroché dans les pièges que le monde nous offre, à vouloir s'accaparer ici, à vouloir s'accaparer ça, combien ce manque de contentement nous freine dans notre progression avec notre marche dans notre marche avec Jésus-Christ. Combien? Avant de continuer, il est bon de définir ce que veut dire le mot contentement. C'est un état ou un sentiment de joie éprouvé par une personne. C'est une satisfaction ressentie au plus profond de soi qui provient du fait, frères et sœurs, que nous sommes en règle avec Dieu et que nous avons la certitude que Dieu est en contrôle de tout ce qui nous arrive. Est-ce que vous êtes amen à ça ce matin? Est-ce que vous avez tous la conviction ici ce matin que Dieu est en contrôle de votre vie? Avez-vous tous la conviction ce matin que vous êtes tous en règle avec Dieu? Avez-vous tous cette conviction ce matin? Pourquoi pas, si vous n'avez pas cette conviction ce matin, pourquoi pas vous mettre en règle avec le Seigneur et prendre un nouveau départ avec lui si vous êtes freiné dans votre marche? Parce que vous êtes tombé dans les pièges du monde, de vous contenter d'une télévision neuve, de vous contenter d'une voiture neuve, de vous contenter d'une maison neuve, de vous contenter de ci. Alors que tôt ou tard, frères et sœurs, tout ce qu'on ramasse, ça va périr et ça va disparaître. Et de vous attacher plutôt aux choses qui sont appelées à durer pour l'éternité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit de nous amasser des trésors au ciel. Des trésors au ciel. Avez-vous déjà réfléchi, c'est quoi ces trésors que le Seigneur nous demande de nous amasser au ciel, c'est-à-dire ces trésors qui vont transcender le temps où Dieu va détruire le ciel et la terre pour créer des nouveaux cieux et des nouvelles terres? Ça va transcender, ça ne périra pas. Ces trésors, qu'est-ce que c'est ces trésors? Avez-vous réfléchi à ça? Puisque le Seigneur nous dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Vous pensez, c'est quoi ces trésors? C'est pas nos maisons, c'est pas nos voitures. C'est l'Évangile que vous auriez donné, vous auriez transmis à des gens. Et que vous, par la grâce de Dieu, Dieu vous aura utilisé pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Ce sont des âmes qui auront la vie éternelle, ce sont des âmes qui vont durer pour l'éternité. Si Dieu nous accorde le confort matériel, nous pouvons gracieusement en profiter, sachant que tout cela provient de la main généreuse et gracieuse de Dieu. En cela, nous ne sommes pas égoïstes et nous cherchons à notre tour à manifester notre générosité, en faisant en sorte que le plus grand nombre possible puisse bénéficier de ce que nous avons reçu de Dieu. Frères et sœurs, Dieu m'a donné à mon tour, je donne. Je ne suis pas là pour ramasser dans mes greniers. Je suis là pour engranger pour le ciel. S'il nous enlève ce que nous avons, notre joie demeure la même parce que nous avons les yeux fixés sur lui. Le contentement, frères et sœurs, se montre à travers deux choses. Nous ne nous laissons pas abattre par les circonstances difficiles que nous vivons ou par les gens qui prennent plaisir à nous faire du mal ou à dire du mal de nous. Et deuxièmement, nous ne nous laissons pas séduire faussement par l'idée d'avancer le plus d'argent possible parce que nous nous appliquons à vivre une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, peu importe ce qui nous arrive ou ce que les autres peuvent nous faire, nous avons cette ferme assurance que le Seigneur est pour nous et qu'il ne nous délaissera pas et qu'il ne nous abandonnera pas. C'est une promesse qu'il fait dans Hébreux chapitre 13, verset 5. C'est une promesse qu'il fait dans l'Ancien Testament, qu'il renouvelle dans le Nouveau Testament. Il ne nous délaissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Et frères et sœurs, je ne pense pas que le Seigneur est encore, que le Seigneur est prêt à perdre son nom pour un seul de ses enfants, ne tenant pas les promesses qu'il a mises dans sa parole. Ces promesses-là, elles sont vraies, elles sont véritables, elles sont fondées. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Et frères et sœurs, quand le Seigneur dit qu'il ne nous délaissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas, vous pouvez avoir la certitude, peu importe les voix que vous entendez, peu importe ce que les gens peuvent vous dire autour de vous, vous pouvez avoir la certitude que Dieu ne vous délaissera pas et qu'il ne vous abandonnera pas. Amen. Comment acquérir le contentement, cette paix de l'âme ou cette joie dans notre cœur ou de se satisfaire de ce que nous avons? Eh bien, le monde cherche le contentement ou à être heureux à travers des voies qui sont mauvaises et tortueuses. Nous devons donc éviter soigneusement ces voies. Et la parole de l'apôtre Paul ici montre que le secret pour être heureux, que le secret du contentement dans chaque situation consiste à garder nos yeux fixés sur le Seigneur en se rappelant qu'il est notre souverain roi, notre sauveur et celui qui pourvoit tous nos besoins, ces trois choses. Il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre sauveur et il est celui qui pourvoit nos besoins. Ces trois choses. Cela signifie que notre attention doit être centrée sur le royaume de Dieu et sur notre désir de le servir et non pas sur l'amour de l'argent et sur les choses de ce monde. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, nous rappelle ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Que peut me faire un homme? Et c'est vrai, hein, frères et sœurs, c'est vrai. Que peut vous faire un homme? Que peut nous faire un être humain? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen! Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu nous accorde le confort matériel, nous pouvons gracieusement profiter, sachant que tout provient de la main généreuse et gracieuse de Dieu. Et on manifeste envers le Seigneur. Envers le Seigneur, eh bien, on a reçu et on donne. Paul mentionne au verset 11 qu'il a éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que les Philippiens aient pu enfin renouveler l'expression de leurs sentiments pour lui. Il savait qu'ils y pensaient, mais qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de le lui montrer. C'est intéressant de voir que quand Paul faisait des reproches, c'est parce qu'il devait les faire. Moi, je pense que quand vous regardez les prisons romaines, où il n'y avait pas de toilettes, si puits de lumière, pas de chauffage, pas de plancher, pas de co-détenus, attachés, dépendant de la gravité de l'accusation. Paul, pour avoir annoncé l'Évangile, a déjà été attaché à des soldats. Il aurait pu leur reprocher de l'avoir laissé tomber, parce qu'à cette époque, ne pensez pas que le gouvernement romain nourrissait les prisonniers. Vous aviez besoin d'avoir des gens qui vous aimaient, parce que c'est eux qui devaient vous fournir la nourriture, et c'est eux qui voulaient vous fournir le vêtement. Ouais. Le gouvernement romain, tout ce qu'il offrait, c'était le logement, la prison, la cellule, c'est tout. Et Paul aurait pu faire des reproches ici. Mais Paul, l'épître de Paul aux Philippiens, c'est une épître où Paul manifeste que malgré tout ce qui peut lui arriver, malgré les circonstances, il n'y a rien ni personne qui peut lui voler sa joie. Et frères et sœurs, c'est un de mes sujets de prière en 2015. Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous vivez, ne permettez pas aux malins de vous voler votre joie. Ne permettez pas à personne de vous voler votre joie. Parce que ça vous freine dans votre foi. Si Paul avait perdu le moindrement sa joie dans cette prison, frères et sœurs, non seulement il n'aurait pas été capable de faire des reproches aux Philippiens, mais il aurait été déprimé, découragé, suicidaire. Il n'y avait personne pour le défendre, en dehors de son Dieu, en dehors de son roi. Puis il dit au verset 12 qu'il a appris à vivre dans l'abondance. Mais qu'il est arrivé parfois que Dieu limite son soutien. Et Paul a aussi appris à vivre dans la pauvreté. Et lorsque cela arrivait, il ne se plaignait pas, il ne paniquait pas, il continuait à faire confiance à la main gracieuse et généreuse de Dieu, sachant que ce qui était le mieux pour lui, sachant que Dieu savait ce qui était le mieux pour lui, et qu'il prend toujours soin de ses enfants. Paul, frères et sœurs, a appris à se contenter de ce qu'il avait, peu importe les conditions dans lesquelles il se trouvait. Et frères et sœurs, la situation économique, la situation sociale, la situation dans laquelle on vit, il est possible qu'un jour on doive apprendre, nous devions apprendre aussi à vivre dans la disette. Frères et sœurs, j'ai 65 ans, je n'ai jamais vu une année comme 2014 vivre autant de bouleversements en 65 ans. Frères et sœurs, ce n'est pas juste un petit point sur la planète qui est en feu. La planète est en train de s'allumer. Vous vous promenez en voiture, même en Belgique, vous ne savez jamais quel intégriste peut lancer une bombe ou vous passez avec votre voiture. Vous envoyez vos enfants à l'école, vous ne savez jamais quel malade peut faire sauter à l'école. Nulle part, il y a la paix sur la terre. Mais nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de Dieu et nous avons la paix de Dieu en nous. Et nous sommes en paix avec Dieu. Frères et sœurs, moi, 65 ans, je n'ai jamais vu la planète aussi chambranlante qu'elle l'est maintenant. Et on ne sait pas ce que 2015 nous prévoit. Et on a besoin de s'appuyer sur les promesses de Dieu. On a besoin de se rappeler que Dieu est notre souverain roi, celui à qui nous devons nous soumettre, qu'il est notre sauveur, celui que je dois servir et qu'il est celui qui pourvoit à tous mes besoins, donc je dois lui faire confiance en toutes choses. Et frères et sœurs, si je le reconnais comme souverain roi, comme sauveur et comme celui qui pourvoit à tous mes besoins, comme Paul l'a fait ici, je connaîtrai le contentement, je serai heureux et mon cœur sera dans la joie, peu importe les circonstances de la vie. Frères et sœurs, on a des belles... J'aurais peut-être fini le message ce matin, mais on a des beaux exemples dans la parole. On a des beaux exemples. Vous savez, on est là, nous, on a des congélateurs. On a des frigos. On a tout pour s'emmagasiner de la nourriture. On a tout, finalement, pour faire en sorte que notre foi n'augmente pas, que Dieu pourvoie tous nos besoins. On a tout.
On a tout. Mais il est possible qu'un jour, on soit privé de nourriture dans nos congélateurs. Il est possible qu'un jour, on soit privé de nourriture dans nos frigos. Est-ce que ça va diminuer notre foi pour autant? Est-ce qu'à chaque fois que notre nourriture diminue, notre foi diminue, frères et sœurs? La Bible nous donne des beaux exemples. Rappelez-vous que Dieu a envoyé un oiseau nourrir son serviteur dans l'Ancien Testament. Un oiseau. Dieu a donné l'ordre à un oiseau de nourrir son serviteur. Est-ce que vous pensez que Dieu, dans sa grâce, qui a été capable de nourrir un de ses serviteurs dans l'Ancien Testament, en envoyant un oiseau, lui donner de la viande, ne sera pas capable, dans le Nouveau Testament, de faire la même chose pour ses enfants? Vous ne pensez pas que Dieu, qui a nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert, qui l'a vêtu sans que les vêtements s'usent, ne serait pas capable de faire la même chose si ses enfants sont persécutés, si nous manquons du strict nécessaire parce que le monde n'est plus capable de nous le donner? Frères et sœurs, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui est dans le Nouveau. Il nous apparaît sous une autre forme, il nous apparaît à travers une personne, il est esprit dans l'Ancien, et il vient sous la forme d'une personne dans le Nouveau, et il nous dit ce que j'ai fait dans l'Ancien, je suis capable de le faire encore aujourd'hui, et ceux qui croiront en moi feront encore de plus grandes choses que moi. Frères et sœurs, si Dieu est capable de commander un oiseau à aller porter de la viande à son serviteur, il sera capable à travers les membres de son Église, qui marchent en sainteté de vie, qui marchent les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, de nourrir son peuple. Vous dites amen à ça ce matin? Frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce qui est avant l'Ancien, avant le Nouveau Testament, ça nous est laissé à titre d'exemple. Allons puiser dedans, allons plonger nos yeux là-dedans. C'est là-dedans qu'on se fortifie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Et un sujet de prière cette année, en 2015, Seigneur, augmente la mesure de notre foi. Augmente la mesure de notre foi. Et sois le premier dans notre vie en toutes choses, Seigneur Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et demandez, dit Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. Fais de l'Éternel tes délices et je te donne. Et tu? Quand tu fais du Seigneur tes délices, avez-vous déjà vu quelqu'un qui mange? Hein, vous allez à la Charlotte aux fraises. Hein? On s'est connu des délices ici, la Charlotte aux fraises. Peu importe le prix, j'entends souvent les gens dire, oh, c'était délicieux. S'ils avaient mangé un steak avant hier, ils avaient oublié le steak parce que c'était délicieux. Vous savez, la charlotte aux fraises, hein? Tout ce qui est anti-cholestérol, là. Voilà. Tout est un délice. C'est un délice. Quand c'est un délice, frères et sœurs, ce que vous mettez dans votre bouche, ça vous fait oublier tout ce que vous venez de manger avant. Quand le Seigneur est le délice, fais de l'Éternel tes délices. Frères et sœurs, tout ce que le monde vous offre avant, ça ne goûte plus rien de bon. Parce que le Seigneur, il est le premier dans sa vie. Et vous avez la conviction dans votre cœur que tout ce qui vient de Dieu, c'est un délice. Que sa parole, c'est un délice qu'il nous a donné. Frères et sœurs, c'est incroyable que ce livre a traversé le temps. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui ont eu une page pour être capable de lire dans certains pays. Une page à lire, privée de la parole de Dieu. Vous avez combien de versions de Bible qui traînent à la maison? C'est une grâce que Dieu nous fait, frères et sœurs. C'est une grâce. Et il n'y a pas de secret, frères et sœurs. Paul connaissait le contentement de son cœur, pas parce qu'il était spécial aux yeux de Dieu, pas uniquement pour ça, parce que Paul plongeait son regard dans la parole au quotidien. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, frères et sœurs. Ce n'est pas que le pasteur qui va vous aider dans les moments difficiles. C'est Dieu et sa parole, parce que Dieu aura un verset à vous donner qui va vous fortifier. Frères et sœurs, la parole ne nous montre pas seulement que Christ est vivant, mais que Dieu est vivant, qu'il est une réalité, qu'il va être une réalité dans vos vies. Pourquoi vous pensez que Paul est en prison à un moment donné, il dit « j'aime mieux mourir ». Il y en a combien ici qui aimeraient mieux mourir ce matin-là? Paul, il dit « ça serait préférable pour moi que je serais en haut. Vous pouvez me tuer, vous pouvez me transpercer, vous ne m'atteindrez même pas parce que moi je sais où je m'en vais, j'ai la conviction qu'il y a une vie après la mort ». Et que cette vie après la mort, elle m'est réservée à moi parce que je suis son enfant. Frères et sœurs, honnêtement, je vous parle avec mon cœur ce matin sans jugement. Hein? Si on avait une conviction que Christ a vaincu, il a vraiment vaincu la mort. Si on avait une conviction plus profonde de nous-mêmes qu'il a ressuscité, on se voyait derrière, frères et sœurs, pour aller plus loin. L'enfer ne cesse pas de s'agrandir jour après jour parce qu'il y a des gens qui sont appelés à tomber dedans. J'ai l'impression que le paradis ne bouge pas depuis quelques années parce que l'Église est amorphe. Parce que l'Église a vendu l'Évangile pour un club d'antilles, fait des compromis. Frères et sœurs, on était convaincus que Christ non seulement est mort, mais qu'il y a une vie après la mort. On se grouillerait, frères et sœurs. On se grouillerait. Et peu importe qu'on nous pique, peu importe qu'on nous tire, peu importe qu'on meure, frères et sœurs, on sait où on s'en va. On sait qu'il y a une vie après la mort. Et on pleurerait pas, on se réjouirait. Paul était dans la joie, peu importe ce qui l'attendait. Il n'y a personne qui pouvait y voler sa joie. Et frères et sœurs, on entend une petite calomnie dans nos oreilles, une petite médisance, et on est tout effrayés, quoi. Et là, on déverse, on pense mal d'un, on pense mal de l'autre, et là, on est perdu, frères et sœurs. Hey, mais qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? Vous savez, ceux qui parlent en mal de Dieu, qui parlent de Jésus, qui c'était? C'était des religieux, des gens qui n'étaient pas sauvés. Eux, ils ont le temps de parler en mal des gens, ils ne sont pas sauvés. Ils se pensaient sauvés, hein, les pharisiens, mais ils n'étaient pas sauvés. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est les seuls qui s'est permis de juger Jésus. Il les a traités de race de vipères. Il les a traités d'hypocrites, de sépulcres blanchis. Mais pour ses enfants, il leur a dit, vous êtes des héritiers du royaume. Et il a dit aux 12 apôtres qui jugeraient les 12 tribus d'Israël. Et il a dit aux enfants de Dieu qui régneraient avec lui sur cette nouvelle terre et ses nouveaux cieux. Hey, frères et sœurs, si vous avez la conviction ce matin que Christ est vivant, qu'il y a une vie après la mort, suppliez le Seigneur de sauver vos enfants s'ils ne le sont pas. Suppliez le Seigneur de vous donner une réalité de ce que c'est la résurrection, qu'il vous donne une conviction que vous faites partie de ces futurs ressuscités, que vous faites partie de ceux qui recevront un corps glorifié. Et frères et sœurs, quand vous donnez la main à quelqu'un, vous pouvez lui dire que Dieu te bénisse, même si c'est un païen, parce que Dieu te bénisse, ça veut dire quoi? Je donne autorité à Dieu d'agir dans ta vie. Et vous savez, quand on dit que Dieu te bénisse à quelqu'un, ça nous empêche de commencer à tomber dans la critique, dans la calomnie, dans la médisance, parce qu'on vient de détruire notre témoignage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comme il m'a béni. J'ai fait ça avec mon voisin. Il m'a donné une place de stationnement. Je l'ai vu avant les fêtes. J'ai dit que Dieu te bénisse, Christian. Il m'a donné une deuxième place de stationnement. Je vais arrêter parce qu'il va finir par me donner son terrain. Il m'a dit qu'il me creuserait un stationnement souterrain, qu'il m'a dit. Il m'a invité à aller prendre une pointe de tarte chez lui, avec mon épouse. Que Dieu te bénisse. Et ça, c'est la formule. C'est pas abracadabra. C'est la formule magique pour les chrétiens, ça. Que Dieu te bénisse comme il me bénit. Et là, si on vous dit, ah oui, en quoi qu'il te bénit Dieu? Ben, dites-lui en quoi qu'il vous a béni Dieu. Ouais. Il me satisfait en toutes choses. Il m'a guéri de ci, il m'a délivré de ça. Hey, extraordinaire. Et frères et sœurs, l'Église est comparée à une armée. Les chrétiens sont comparés à des soldats. Prenons notre arme et allons au combat. Et les Églises qui se contentent de faire du social. Qui se contentent de faire ce que les ONG font. L'Église n'a pas été fondée pour faire du social. L'Église a été fondée pour proclamer l'Évangile. C'est la seule qui peut le faire dans le monde. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce. Et frères et sœurs, voilà pourquoi le monde est là, s'il nous tenter. Nous tenter, dire, tu n'es pas satisfait, hein, ça ne va pas. Hein. Puis, non, il est tenté. Paul était capable de dire, même en prison, je puis tout par celui qui me fortifie. Pouvons-nous dire cela ce matin, frères et sœurs? Est-ce que c'est la TV qui nous bloque? Est-ce que c'est les films qui nous bloquent? Est-ce que c'est l'ordinateur qui nous bloque? Est-ce qu'il y a un péché quelconque qui nous bloque? Pour que nous puissions crier, je puis tout par celui qui me fortifie. Frères et sœurs, l'année 2015, c'est une année particulière. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir. Il rajoute des gens dans l'Église. Je vois des nouvelles personnes ici, là, ça fait pas 3 mois. Ils sont ici ce matin. Il y a 6 candidats au baptême. Frères et sœurs, Dieu nous bénit. Et vous savez, on est des pêcheurs d'âmes. On peut se contenter de pêcher à la ligne, avec un verre à la fois, ou on peut bénéficier de la grâce de lancer le filet et de ramasser plein. Et vous êtes choyés, frères et sœurs. Dieu vous a choisis. Paul a appris à se contenter de ce qu'il avait, peu importe les conditions dans lesquelles il se trouvait. Et remarquez ce qu'il ajoute au verset 12. « J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances que j'ai assez à manger ou que j'ai faim, que j'ai trop, que je n'ai pas assez. » Se contenter de ce qu'il avait ou pas ne lui est pas venu spontanément et naturellement, frères et sœurs. Ce fut un processus et quelque chose qu'il a appris et que nous apprenons lorsque nous marchons jour après jour avec le Seigneur. La clé de ce processus réside dans le fait que nous avons compris que dans sa grâce, Dieu pourvoit à tous nos besoins et qu'il utilise toutes les situations et toutes les circonstances pour nous former à vivre dans la sainteté, à nous soumettre à lui et à lui faire confiance. Frères et sœurs, notre attitude dans les épreuves et la confiance que nous lui manifestons à ce moment-là sont déterminants. George Muller a démontré que la fidélité de Dieu en matière de finances ne lui a jamais fait défaut. Il a vécu au 19e siècle à Bristol, en Angleterre, où il a fondé un orphelinat comprenant plusieurs maisons. En fait, à la fin de sa vie, il soutenait 2200 enfants. Lui et son épouse ont littéralement pris au mot le commandement de Jésus qui dit dans Luc chapitre 14, verset 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Ils avaient donc décidé de renoncer à acquérir tout bien personnel. Et c'est ainsi, tout comme l'apôtre Paul, que George Muller avait adopté comme principe de ne jamais faire connaître ses besoins financiers à quiconque, sauf à Dieu par le moyen de la prière. Il était extrêmement prudent afin d'éviter que quelqu'un puisse savoir qu'il était dans le besoin ou que l'orphelinat était dans le besoin. Les enfants ne savaient rien des difficultés financières que pouvait traverser l'orphelinat, mais ils n'ont jamais manqué de nourriture, de vêtements et de chauffage l'hiver. Mais il y eut des périodes où la foi de George Muller fut mise à rude épreuve. Et lorsque le Seigneur décidait de répondre à ses besoins à la toute dernière minute, le 8 février 1842, il y avait suffisamment de nourriture dans les différentes maisons de l'orphelinat pour nourrir les enfants, mais il n'y avait plus d'argent pour acheter le stock habituel de pain et de lait pour le déjeuner et du lendemain, et deux maisons avaient besoin de charbon pour garder au chaud les enfants. Muller nota dans son journal que si Dieu ne lui venait pas en aide avant 9 heures le lendemain matin, eh bien que le nom du Seigneur serait déshonoré. J'ai lu la note, c'est marqué « Seigneur, si tu n'interviens pas avant demain matin 9 heures, ton nom sera déshonoré. » En voulant dire « Seigneur, tu ne tiens pas à tes promesses parce que tu as dit que tu pourvoirais aux besoins de tous tes enfants. » Tout le lendemain matin, Muller marchait vers l'orphelinat pour voir comment Dieu avait répondu à leurs besoins, pour découvrir qu'il n'avait pas encore répondu. Un homme d'affaires chrétien se dirigea à pied vers son travail lorsqu'il lui vint à l'esprit que les enfants de Muller pourraient être dans le besoin. Il décida qu'il déposerait quelque chose le soir en finissant de travailler. Mais il ne put aller plus loin et se sentit contraint de rebrousser chemin. Il fit un don qui pourvut à leurs besoins pour les deux prochains jours. Muller reconnaissait que c'était Dieu qui testait la mesure de sa foi à travers de nombreux exemples comme celui-ci. Muller, je pense qu'il est mort à 93 ans, et il a dit « J'ai vécu dans l'abondance et dans la richesse. » Et ce serviteur Dieu s'est amusé à répondre à ses besoins toujours à la dernière minute, toujours sur le fil du rasoir. Et à chaque fois, il disait « Seigneur, pardonne-moi mon manque de foi. » Moi, j'aurais pas été capable de diriger un orphelinat de 1200 personnes sans courir à droite et à gauche et m'assurer qu'ils ont de la nourriture, sans m'assurer qu'ils n'ont pas de chauffage, sans m'assurer qu'ils n'ont pas de vêtements. Et il a commencé petit, il a été fidèle dans les petites choses et Dieu a commencé à lui confier de grandes choses. Et il voulait partir missionnaire. Et la mission le refusait, lui a dit « T'es pas faite pour aller en mission ». Il a été déçu, il jugeait les comités, il disait, ils n'ont pas de capacité, ce comité-là, ils ont perdu de vue tout ce qui se passe. Et là, il marche devant un pénitencier. Et là, un pénitencier où il y a des bandits, de la rapace qui est condamnée à des années de prison. Et il voit un enfant de 8 ans qui se tient après les barreaux, tout dépourvu de vêtements, et qui pleure. Et là, il le voit, parce que les orphelinats n'existaient pas en Angleterre à ce moment-là. Quand les parents mouraient, on plaçait les enfants avec les prisonniers dans les prisons. Et dans sa grâce, Dieu lui dit, écoute, c'est à ça que tu es appelé. C'est à ça que tu es appelé. Et frères et sœurs, la première étape pour avoir un contentement dans notre cœur, être satisfait, connaître le bonheur
auquel Dieu nous appelle, c'est d'abord d'avoir un esprit de service. Ce n'est pas de courir comme une poule sans tête pour rentrer dans l'église et moi je m'en vais là. Non, c'est de dire, Seigneur, guide ton serviteur là où tu l'appelles à te servir. Guide ton serviteur là où tu l'appelles à te servir. Guide ta servante là où tu l'appelles à te servir au sein de ton église locale, Seigneur. Et le fait qu'on désire, Dieu va répondre à cette prière, comme il l'a fait pour Georges Muller, comme il l'a fait pour d'autres. Paul désirait servir le Seigneur, mais il le désirait d'une mauvaise façon, c'est à travers la religion. Dieu connaissait le cœur de Paul et sur le chemin de Damas, il va le rencontrer. Il va rencontrer Jésus en personne. Il va parler avec Jésus et Jésus va l'aiguillonner. Frères et sœurs, on a besoin de serviteurs et de servantes. On a besoin, entre guillemets, hein? C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir servir dans son Église. Il manque du personnel à l'école du dimanche. Il manque du personnel à tel endroit, dans d'autres ministères. On est tous appelés à servir le Seigneur, tous. Et c'est une bénédiction. Vous savez, quand j'ai fait la faculté de théologie, je ne sais pas si je l'ai raconté, ou ça fait très longtemps, on nous apprenait à prêcher, on nous apprenait toutes sortes de choses, et finalement, le doyen m'a dit, ben écoute, tu t'en viens dans mon église pendant les 4 prochaines années. Alors, les premières semaines, j'étais assis, j'écoutais. Et après quelques semaines, il m'a dit, OK, tu vas servir dans l'église. Alors, je pensais que j'étais pour prêcher, oui. J'étais à la pouponnière. Ça, c'était mon premier ministère, c'était la pouponnière à changer les couches des enfants. Et il a vu que je n'avais pas un grand sourire. Il m'a dit, si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne seras pas capable de prêcher. Et il avait raison, hein. Si je ne suis pas capable de changer un rouleau de papier de toilette dans l'église, là, je ne suis pas digne d'occuper aucun autre ministère dans l'église. Être au service des frères et sœurs. Voir son frère être supérieur à lui-même. Être serviteur des uns des autres, frères et sœurs. Que 2015 puisse être une réalité dans votre vie, frères et sœurs. Et je termine en vous disant que si vous marchez avec Dieu, que vous vous trouvez dans une situation désespérée, vous pouvez avoir la certitude que vous ne vivez pas cette situation au hasard, ou par hasard, Dieu, qui est votre souverain roi, vous fait vivre cette situation pour vous faire grandir dans votre foi, afin que vous puissiez partager sa sainteté. C'est pas moi qui l'ai dit, Hébreux chapitre 12, verset 10. Avez-vous saisi que Dieu veut nous faire participer à sa nature divine? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Est-ce qu'on réalise ce que c'est, ça, ce que ça veut dire? Le Créateur de toutes choses veut nous faire participer à sa nature divine en déposant son esprit en nous et en nous faisant partager, participer à sa sainteté. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Et on s'accroche les pieds dans un match de football. Dans un match de ci, dans un match de ça. Je ne vous dis pas que c'est péché, hein? Mais souvent, ça freine notre progression dans notre foi. Ce qui m'attriste, c'est de savoir qu'il y a des chrétiens qui sont capables de me donner les noms de tous les joueurs des Standards de Liège et qui ne sont pas capables de me nommer le nom des douze apôtres. Ça m'attriste. Je suis convaincu que les joueurs du Standard vont être au ciel, mais je suis convaincu que les 12 apôtres, on va les retrouver en haut, qu'on va passer l'éternité avec eux. Frères et sœurs, que 2015, ce soit une priorité pour nous. Seigneur Jésus, tu es mon souverain, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur, Seigneur, et je reconnais en 2015 que je vais dépendre de toi du début jusqu'à la fin. Seigneur, parce que je sais que tu ne me délaisseras jamais, que tu ne m'abandonneras jamais. Et c'est ma prière ce matin en terminant, Seigneur, bénis mes frères et sœurs dans l'Église. Bénis-les, Seigneur, abondamment, qu'ils puissent goûter à ta grâce, Seigneur, qu'ils fassent de toi leur délice, frères et sœurs. Que tu sois ce qu'ils désirent le plus en 2015, afin que nous puissions célébrer dans la louange, dans l'adoration, Seigneur, tes bienfaits que tu déverses en nos jours après jour. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un cantique.